Niveau de l'enregistrement pour le son, oui, 1, 2, 3, tout le monde m'entend. Il faut parler plus près, non, ça va? Oui, tout le monde entend? Non, pas suffisamment.
1, 2, 3, voilà, c'est parfait comme ça. Voilà, si vous voulez bien prendre place, merci pour votre présence. Permettez-moi, en introduction de cette journée, de vous livrer un très court extrait d'un rapport du Marine Board qui vient d'être publié là, cette année sur la question du climat, des océans et de la santé humaine. Bien que la validité scientifique du changement climatique mondial a été de plus en plus acceptée dans la communauté scientifique internationale depuis plusieurs décennies, d'autres publics, allant des décideurs au grand public, ont été moins convaincus. Alors, convaincre évidemment des effets du changement climatique et de la nécessaire adaptation de nos activités et de nos modes de vie qui vont survenir, eh bien, est le principal objectif que s'est fixé l'espace MADES France en partenariat avec l'Institut international de recherche politique de civilisation en organisant bien sûr cette journée. Alors, pour être plus précis, il faudrait dire que les changements climatiques, eh bien, sont déjà survenus. En particulier dans des régions tropicales où certaines populations ont dû abandonner leur activité économique traditionnelle. Autres territoires fortement impactés par l'évolution du climat, les petites îles à travers le monde. En 2010, Mohamed Nached, qui était l'ancien président des Maldives, s'était adressé en ces termes à la communauté internationale. Pour comprendre la réalité du réchauffement, il faut avoir de l'eau dans le salon. Et maintenant, l'heure du changement climatique n'est-elle pas arrivée dans les zones tempérées du globe et notamment, évidemment, en Poitou-Charentes? Alors, si vous le voulez bien, notre matinée se déroulera en 5 temps. Un court lancement avec des personnes qui ont préparé cette journée. Une intervention ensuite de Daniel Peruzaube qui plantera le décor climatique. Ensuite, la parole sera donnée à des acteurs économiques et à des élus qui évoqueront des actions et des politiques engagées en Poitou-Charentes. Puis un témoignage d'une enseignante sur un projet pédagogique en lien bien sûr avec la question du climat. Et en fin de matinée, nous aurons l'intervention de Jean-François Sabouret sur, moi je mets entre guillemets, sur la diplomatie climatique au Japon, mais il pourra peut-être repréciser le thème de son intervention. Voilà, donc Didier Moreau, directeur de l'espace MADES France, va nous dire en quelques mots, resituer un petit peu cette initiative, cette journée, dans un projet beaucoup plus ambitieux, hein, qui démarre donc aujourd'hui, qui a même commencé avant sur le net, bien sûr, depuis quelques années avec les différents colloques, et qui va nous mener jusqu'à la COP21, et puis surtout la mise en œuvre, on l'espère, des décisions importantes qui seront prises lors de cette conférence internationale.
Merci, bonjour et bienvenue à l'espace MADES France. Donc, nous avons posé cette question d'emblée, voici quelques mois, autour du changement climatique. Tout le monde s'en fout, point d'interrogation. Ce n'est pas qu'une provocation, c'est aussi une façon de demander des réponses les plus claires possibles, les plus tangibles possibles. Alors, pourquoi l'espace MADES France se trouve impliqué dans une telle démarche? Il y a deux bonnes raisons pour cela. La première, c'est que dans les missions historiques de ce centre de culture scientifique depuis une trentaine d'années maintenant, le fond du travail est de mettre en relation le monde scientifique, de l'enseignement supérieur et de la recherche avec nos concitoyens. Commencé voici une trentaine d'années, ce travail était un travail de vulgarisation. Il est désormais évident que ce travail doit prendre une dimension de société. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, qu'il faut sortir des positionnements convenus où les acteurs jouent un rôle ou des rôles et essayer, à travers le débat, de trouver de nouvelles façons d'aborder les problèmes et de trouver des réponses. Ces réponses, on le sait, elles seront collectives. Donc, c'est la raison pour laquelle l'espace MADES France, qui avait déjà lancé en 2009 une interrogation autour du climat, s'est mis en ordre de marche pour que d'ici décembre 2015, on puisse tout à la fois avoir une série d'événements et de temps forts permettant de faire le point sur les questions de climat. Mais maintenant, l'heure n'est plus au constat ou aux discussions scientifiques, le débat sur le scepticisme climatique étant quasiment clos. Il faut essayer de voir comment les acteurs des territoires se mettent en ordre de marche également pour participer à ce qu'on appelle l'adaptation à ce changement. Donc l'espace MADES France entend jouer ce rôle tout à la fois de médiateur, mais également en lançant cette idée de cahier de doléances climatiques, permettre aussi à nos concitoyens, à partir des informations qu'ils ont via les médias, mais également de ce qu'ils peuvent entendre, connaître et percevoir, demander donc à nos concitoyens de nous remonter leurs attentes, leurs interrogations, leurs craintes, leurs doutes. Il en va de même pour les habitants en bord de littoral, où ces dernières années, un certain nombre d'événements ont permis cette conscientisation, mais également sur l'ensemble des groupes sociaux, monde agricole, monde économique, etc. Et l'espace Mendès France, entend dans ce rôle de médiation, jouer un rôle pour rapporter l'ensemble de ces paroles de territoire, vers les décideurs économiques, sociaux et surtout politiques. Et donc l'objectif, c'est que tout ça puisse permettre de faire une sorte de synthèse collective, territoriale, et de la remettre en tant que de besoin lors de décembre 2015, ce grand débat mondial autour des questions climatiques. Donc, mieux connaître le problème, mais surtout le partager. Voilà l'objet et l'objectif de la maison pour les prochaines années.
Merci Didier. Alors, Georges Tupart, vous êtes, je vous représente, mais tout le monde vous connaît, vice-président de la région Poitou-Charentes. Alors, que vous inspire un petit peu ce titre un petit peu cru, là, tout le monde s'en fout. Est-ce que la région aussi, Poitou-Charentes, se fout un petit peu de l'évolution du climat?
Écoutez, ce titre est parfait. Bonjour à tous. Merci à l'Espace Mendès France d'avoir organisé ce colloque. Le titre me convient parfaitement, excusez-moi, parce que j'ai envie de lire « Le changement climatique, tout le monde s'en fout, sauf la région Poitou-Charentes hein. ». C'est parce que le changement climatique est visible ici en Poitou-Charentes, vous l'avez vu. On a proclamé en 2004 l'excellence environnementale. Je crois que c'est un mot qui fait écho, justement, de manière positive à votre interrogation sur ce sujet. Et puis, c'est l'objectif de la présidente hein, depuis 10 ans, c'est-à-dire l'adaptation de notre économie régionale à ce qu'on appelait les 3x20 souhaités par l'Europe, hein, 20% de gaz à effet de serre en moins, 20% d'économie d'énergie et 20% d'énergie renouvelable développée. Et nous, on a même projeté de dépasser ce stade. Alors, je crois qu'un des éléments clés de notre société pour justement ne pas se moquer du climat et améliorer la situation, c'est le problème de l'énergie. C'est le problème de l'énergie qui est au cœur des enjeux, je crois, du 21e siècle. Et c'est le nœud de notre société qu'il nous faut desserrer si l'on veut être efficace. La transition énergétique est en route en Poitou-Charentes, je l'ai dit. C'est plusieurs choses, la transition énergétique. C'est une nécessité pour l'environnement, tout le monde le sait, hein, le respect de la planète, on l'a dit, la lutte contre le réchauffement climatique. Deux, c'est un levier pour l'économie, hein, c'est l'innovation, la création d'entreprises et des gisements d'emplois. Trois, c'est une opportunité pour le pouvoir d'achat des Français. Hein, on réduit le montant des factures en utilisant les énergies renouvelables. Quatre, c'est une chance pour la France, le pays de l'excellence environnementale, hein, le pays de ce qu'on peut appeler, de manière futuriste, la sociale écologie, que nous appelons tous de nos voeux. Donc il y a nécessité, vous l'avez dit, d'agir à une échelle efficace entre la vision globale et la concrétisation locale. C'est absolument la philosophie de la région. Les régions, par leurs compétences d'aménageurs du territoire, ont un rôle décisif à jouer dans ce domaine. Alors je répéterai, en vous provoquant de la même manière, je me répète un peu, mais en Poitou-Charentes, nous n'avons pas attendu le déluge. Hein, et nous avons mis en place, je le répète, l'excellence environnementale au cœur de nos priorités. Alors, nous avons mis en place plusieurs actions, je vais les rappeler concrètement. Hein, d'abord, dans le cadre. C'est cinq thématiques. Un, la croissance verte. Deux, la lutte contre le réchauffement climatique proprement dit. Trois, la maîtrise de l'énergie. Quatre, le développement des énergies renouvelables. Cinq, les transports propres. Six, l'agriculture saine. Pour faire plus simple, et 7, la formation au métier du développement durable. Voilà. Nous avons essayé de prendre toutes les facettes d'une société économiquement responsable, une société économiquement développée, qui ne fait pas que lancer des incantations, mais qui aussi prend en charge les problèmes et essaie de les résoudre. Tout n'est pas réussi, mais je prends par exemple pour la croissance verte, on a fait les premiers forums participatifs des éco-industries dès 2005. Je voyais que vous disiez, monsieur le président, monsieur le directeur, qu'il fallait que les citoyens s'en emparent. Vous parliez de cahier de doléances. J'ai envie de dire, dans le catalogue expérimental de la région, après 10 ans d'expérience, eh bien, nous avons des éléments de ces doléances populaires dans lesquelles on peut piocher. C'est la création du pôle régional des éco-industries avec plus de 1000 entreprises et plus de 17 000 emplois. C'est la signature en 2011 avec 19 réseaux d'entreprises d'une convention sur la mutation sociale, écologique et solidaire de l'économie. C'est le soutien permanent à la plateforme Valagro, aujourd'hui propriétaire de 50 brevets mis à la disposition des entreprises régionales. Et puis, c'est la création, la volonté de créer, depuis 2012, l'Institut de la chimie verte. Le deuxième point, la lutte contre le changement climatique, eh bien, c'est le plan climat énergie territoriale avec 48 actions que vous connaissez. C'est la signature du schéma régional climat air énergie avec l'État en avril 2013. Pour la maîtrise, je fais assez vite, je sais que Benoît me regarde de travers déjà. Pour la maîtrise et les économies d'énergie, c'est le lycée Kyoto, premier lycée 100% énergie propre, qui consomme 13 fois moins de chauffage et 22 fois moins d'électricité. C'est un plan isolation de 8000 logements sociaux sur 2009-2012. En 2009, c'est le programme pilote de 1000 maisons bois à basse consommation d'énergie et qui permet de structurer la filière de la construction bois dans le bâtiment. C'est la création de 5000 emplois à l'échelle régionale pour l'isolation et la réhabilitation des logements thermiques. Et puis, c'est le nouveau plan de 2013, isoler 10 000 maisons. Nous en sommes déjà à 3500. Et c'est la création de la SEM Arte, Agence régionale pour les travaux d'économie d'énergie, que nous sommes en train de monter pour avoir une efficacité territoriale plus grande avec du tiers payant, avec intervention des banques et des investisseurs qui veulent participer. Sur le point 2, le développement des énergies renouvelables, nous sommes la première région à avoir réagi avec un plan solaire régional. En 2008, c'est 400 millions d'euros qui viennent de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons pu développer 270 mégawatts à l'horizon 2015, soit 80% de l'objectif réalisé. Nous avons mis aussi un fonds de résistance photovoltaïque pour empêcher la faillite des PME. Vous voyez, c'est du concret, tout ça. Nous développons les énergies marines. Et puis, nous sommes en plein plan méthanisation. Vous savez, la présidente l'a annoncé, c'est alors, au moment où on veut redécouper les territoires, nous, on prend l'échelle qu'on peut et on dit une unité de méthanisation par canton. C'est l'énergie du 21e siècle pour les territoires. Nous sommes la première région pour le nombre de professionnels reconnus pour les énergies renouvelables, les professionnels formés, le nombre de professionnels capables d'appliquer les énergies renouvelables, ça fait la quatrième année consécutive. Vous voyez, derrière, il y a un travail de fond. Et puis, en matière de transport propre, eh bien, nous avons fait la MIA électrique. Alors, c'est la première région à entrer dans le capital d'une entreprise stratégique. On me dira, oui, ça n'a pas marché. Malgré tout, nous avons tenté. Ce n'est pas fini. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, où le problème majeur est le moteur à explosion qui produit, qui a été une formidable force de progrès à la fin du 19e et pendant le 20e siècle, ce moteur à explosion, aujourd'hui, il faut le revoir complètement. Et l'électricité d'origine renouvelable autour du véhicule propre et du véhicule électrique, c'est vraiment l'avenir. Nous avons mis là un coin dans le développement classique pour aller vers ce développement durable autour de la MIA électrique, je le répète. C'est le développement du train régional, 738 millions investis depuis 2004 pour développer l'offre ferroviaire avec une fréquentation qui a doublé en 10 ans. Et c'est soutien à la fabrication de moyens de transport propre, comme Alstom avec les tramways. On a lancé un appel à projet auquel Alstom a répondu. Dans l'agriculture, nous sommes mêlés aussi de l'agriculture bio. Nous avons mis en place le système de lutte contre les pesticides, le plan Tersen. Aujourd'hui, il y a environ 300 communes qui participent à ce plan Tersen. Nous avons interdit d'entrer, vous avez vu la présidente qui en a fait un cheval de bataille au début de mandat en 2004-2005 pour l'interdiction des cultures OGM en plein champ. Nous développons les circuits courts et puis nous, avec les nouvelles responsabilités au niveau agricole, nous allons pouvoir amplifier notre aide à l'agriculture biologique dans les 6 années qui viennent. Nous avons planté des arbres, ça semble banal. La présidente avait dit 1,7 million d'arbres plantés. Nous sommes à 2,4 millions et nous avons un nouvel engagement de 1 million d'ici à 2015. Et puis, nous avons 61% des sites littoraux protégés entre 2004 et 2010. J'ai presque fini. En matière de formation des métiers verts, nous avons soutenu tous les métiers de la croissance verte, l'éco-construction, les énergies renouvelables, le management environnemental, le traitement des déchets. Et surtout en 2011, et c'est mon dernier point, avec l'ADEME, nous avons mis en place la démarche Praxibat, et nous avons 12 plateformes de formation de formateurs sur la performance énergétique du bâtiment et les énergies renouvelables. C'est environ 5000 personnes depuis la formation initiale pour les jeunes jusqu'à la formation des professionnels qui seront formés par an à partir de ces 12 plateformes. Conclusion. La région Poitou-Charentes continue à se mobiliser pour que nous gardions ce que nous appelons. Vous voyez, souvent, on était un peu moqué d'un petit sourire en disant « Poitou-Charentes, une énergie d'avance ». Je crois qu'on a des résultats ici qu'on montre qu'on ne voulait pas être les premiers, mais on avait pris conscience de cette nécessité d'agir contre le changement climatique. Et la présidente de région, Ségolène Royal, et son successeur, Jean-François Macaire, sont absolument dans cette ligne-là et nous n'en démordrons pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est adapter au niveau national ce qui a marché au niveau régional. Et je ne vais pas vous lancer un scoop. Je vous quitte tout à l'heure vers 11h, pardon, parce que je vais rejoindre la ministre à Paris qui va lancer la charte Terre saine au niveau national. C'est-à-dire qu'elle veut que toutes les communes de France se mettent à zéro pesticide dans le traitement de leurs espaces verts. Vous voyez, donc on essaie, elle essaie de porter ses idées au niveau national. Le laboratoire Poitou-Charentes, ce qui pouvait paraître péjoratif parce qu'on n'est pas des cobayes, hein, on est simplement des citoyens conscients, responsables, qui veulent avancer dans le développement durable. Le laboratoire Poitou-Charentes a ce qu'il faut pour développer au niveau national une politique correcte sur le plan du changement climatique. Et il faut sortir de la crise, c'est aussi notre souci. Il y a un problème écologique, mais dans l'écologie, il y a économie et sociale. C'est pour ça que ce serait un pléonasme de dire écologie, économie, écologique. Et je vous présente mes excuses pour cette présentation un peu désordonnée, mais c'est à l'image un peu du futur nouveau climat qui déstabilise un peu tout le monde. Mais vous pouvez vous rassurer, vous avez vu, nous avons tout pris en main en Poitou-Charentes. Et en Poitou-Charentes, non, on ne se fout pas du changement climatique, on essaie d'anticiper pour une société du 21e siècle durable. Merci.
Merci Georges Tupart. Vous avez abordé tout un ensemble de points qu'on va développer évidemment ce matin sur la question de l'agriculture, la croissance verte, le rôle des entreprises, etc. Donc merci pour cette introduction, cette présentation de la politique régionale. Alors nous allons terminer notre petit tour de table de la page accueil avec... Daniel Lomont, président du CRSP, mais surtout, on va dire, poil à gratter de la société Poitvine sur les questions d'environnement. Il est maire adjoint honoraire sur les questions d'environnement, ancien aussi élu régional, qui s'est beaucoup préoccupé évidemment de ces questions-là. Donc, Daniel Lomont, en 3 minutes, 2-3 réflexions, donc une intervention très synthétique.
Oui, très courte. Je pensais qu'il y aurait... Des lycéens, là, et j'avais préparé quelque chose pour eux, des lycéens de seconde, première, donc des gens qui sont nés avec le siècle, qui ont 15 ans aujourd'hui. Ils sont donc nés en l'an 2000, et en 2050, ils auront, je dirais, à gérer la société. Beaucoup d'entre eux seront élus, ce seront des jeunes élus, parce que 50 ans, c'est très jeune pour un élu, la moyenne d'âge doit être de plus de 60 ans. On a la chance d'avoir un très jeune président de région qui a 58 ans, un ex-président, on donnera pas son âge, mais qui est un peu plus jeune. Autrement, Jean-Pierre Raffarin Claes, ils auront 66 ans, etc., etc. Donc si ces jeunes-là d'aujourd'hui, dans 35 ans, 2050, ils seront élus partout, ils auront à gérer finalement ce que leurs prédécesseurs ont fait. Et ils ne pourront pas dire, on ne savait pas, puisqu'ils auront quand même en histoire étudié le discours du président de la République à Johannesburg. Ils auront regardé, je dirais, un petit peu en arrière. Alors, si on se plonge 35 ans en arrière, hein, 35 ans en arrière, c'est l'écart qu'il y a entre 2050 et puis et nous, et puis entre 1980. 1980, qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Au niveau politique, il y a deux grandes puissances dans le monde. C'est les États-Unis et l'URSS. C'est pas la Russie, les gens ont oublié, c'est l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui fait la guerre, qui bombarde l'Afghanistan. Tiens, 70 ans après, c'est pas... Enfin, 35 ans après, c'est pas réglé le problème de l'Afghanistan. Et puis, tiens, qu'est-ce qui se passait déjà en 1980? En 1980, eh bien, on s'était préoccupé des guerres au Moyen-Orient et on avait commencé à démarrer. Le président de la République, c'était Giscard d'Estaing, qui avait commencé à démarrer un plan gigantesque pour éviter de dépendre complètement du pétrole. Il avait encensé le Shah d'Iran, on espérait qu'il y aurait une paix durable au Moyen-Orient, et on lançait le programme nucléaire. Programme nucléaire fantastique, hein, y compris au niveau de la région, puisque 80, c'est le lancement de l'idée de Civeau, le président du Conseil général, et qui était également ministre, M. René Monnery, avait lancé l'idée de Civeau. Hein. Civeau qui aujourd'hui est en plein régime et qui théoriquement devrait être arrêté en 2050, et les élus de 2050 auront à gérer cela. Vous me direz, mais à ce moment-là, on ne se préoccupait pas des problèmes énergétiques et des problèmes de fin d'un certain monde comme aujourd'hui. Mais on croyait bien faire, les décideurs de l'époque qui ne sont plus là aujourd'hui, hein, globalement, hein, parce qu'ils auraient plus de 100 ans, ben, avaient laissé des infrastructures qu'on doit gérer aujourd'hui, que géreront les jeunes leur après dans 2050. Et qu'est-ce qu'ils auront à faire? Alors, ils pourront, et je n'aminerai pas dessus, ils pourront faire comme l'une des deux grenouilles de la fable chinoise. Vous savez très bien que deux grenouilles aventureuses étaient baladées un petit peu partout, étaient tombées dans une grande jarre. On leur avait dit, n'allez pas dans les mares quand vous ne connaissez pas les abords. Elles étaient tombées dans une jarre parce que ça sentait bon, c'était du blé. Oh, puis une des deux, c'était du blé, les pentes étaient dures, elles ne pouvaient pas sauter, il n'y avait pas de prise pour sauter. Ben, l'une des deux dit, hop, j'y arriverai pas, le changement climatique, c'est la fin du monde, on doit nous tomber sur la tête. On n'a pas prévu de passerelle, d'échelle de sécurité. Elle laisse faire, elle meurt, noyée. La deuxième dit, non, moi, je ne laisse pas faire. Et puis elle se bat. Elle se bat tellement bien, je n'ai pas dit que le beurre, c'est du beurre pour tout Charente. Hein. Elle se bat tellement bien que le lait devient beurre, et puis là, ça lui fait une prise, et elle peut sortir. Mais il faut qu'on donne des outils aux jeunes de 15 ans aujourd'hui pour qu'ils puissent, sachant que cela va arriver, qu'ils puissent gérer, donner de l'espoir. Alors, plein d'exemples ont été donnés au niveau de la région. Je ne peux pas vendre la ville de Poitiers pour dire qu'on l'a fait. De toute façon, il suffit de regarder ce que fait l'espace Mendès France et ce que fait sa revue d'actualité. Et vous verrez qu'on n'a pas attendu 2050 pour prévoir un changement climatique qui n'est pas un changement de saison, qui est quelque chose d'important. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'on va avoir entre 1 et 2 mètres de plus au niveau des océans. Alors, quant aux États-Unis, un organisme qui s'appelle NASA, je ne sais pas trop quoi, le dit là, le 6 juin, tout le monde s'inquiète, dit qu'on est 2 mètres de plus, c'est-à-dire le double de la montée maximale prévue par le GIEC. On ne le croit pas. Je ne sais pas si les ports aménagés dans le marais Poitevin seront sous l'eau ou pas. Donc on le sait, les jeunes qui auront à gérer la société ont les données. Ils pourront retrouver, pas les auteurs des articles, mais les articles dans l'actualité Poitou-Charentes, ils verront qu'on avait prévu. On est là. Il ne s'agit pas de baisser les bras. On peut le faire. Ces gens-là, une donne. Ils auront à gérer en quelques années ce que leurs prédécesseurs ont mis des dizaines d'années, je dirais, pas d'erreur, mais des dizaines d'années à évoluer. Moi, je crois en l'espoir, même s'il faudra aller très vite. Rien n'est perdu. On a des solutions. Et la démarche scientifique qui consiste à ne pas se cacher la tête sous les trottoirs qui est faite ici est importante et pourra servir d'exemple.
Merci, Daniel Lemont. On va demander aux enseignants et enseignantes présentes dans cette salle de relier ce message vers leurs étudiants, vers les lycéens qui n'ont pas pu venir, si j'ai bien compris, n'ont pas pu participer aujourd'hui à cette journée, mais qui va être retransmise sur Internet à partir de demain. Et donc, on aura une matière extrêmement intéressante à faire connaître autour de nous. Alors, justement, pour commencer cette matière intéressante, eh bien, nous avons invité notre spécialiste climat, Daniel Peruzaube, qui est enseignant à l'Université de Poitiers, au département de géographie, et puis spécialisé, évidemment, sur cette question climatique. Alors, il nous livre une nouvelle présentation, hein, et on lui donne combien, 50 minutes? Ouais, il m'a demandé 55, alors on va lui donner 50 minutes pour dérouler cette présentation et qui va vraiment planter le décor climatique.
Bien, merci Benoît, monsieur le directeur, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs. Je vais être donc rapide dans les remerciements de cette invitation donc pour aujourd'hui, et histoire de planter le décor, mais d'une manière fort général parce que c'est quelque chose de ce changement climatique, quelque chose d'hyper complexe. Donc vous verrez, j'ai calé des faits, des questionnements parce que on continue à, en tout cas je continue à me questionner. Je vais lancer tout de suite ma présentation. Allez. C'est parti. Non. Ah. Si je fais comme ça. Ou alors, ce que je fais toujours par en bas, diaporama, à partir du début. Ça, c'est quand on passe du Mac au PC. Bon, voilà, c'est juste une boutade. Donc, j'ai intitulé cette présentation de ce matin donc, changement climatique. Il faut toujours trouver un titre. Et donc, je le présente comme une problématique scientifique et sociétale majeure du XXIe siècle. Donc, problématique, d'accord, elle est à la fois scientifique et je trouve qu'il est nécessaire, obligatoire d'indiquer également, d'utiliser l'adjectif sociétal, puisque les hommes sont sur Terre et on est dans ce nouveau contexte. Donc, durant mon propos, je vais évoquer donc un mot, un acronyme qui est le GIEC, IPCC en anglais. Donc, comme je vais en parler, je rappelle très très rapidement ce dont il s'agit. Donc, c'est un ensemble de personnes qui siègent dans une grande assemblée, donc créée en 1988 par les Nations Unies sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement, puisque à partir de ces années-là, il y avait une urgence, en tout cas une prise de conscience qu'il se passait quelque chose dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est un ensemble d'experts très 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 nombreux, un nombre de rédacteurs, de relecteurs d'environ tous les pays du monde, 195 pays. On y vote, sachant que les États sont égaux, c'est-à-dire un État, une voix, indépendamment du nombre de populations, ce qui est quand même très bien. Que fait ce panel de scientifiques? Eh bien, ils vont avoir une lourde charge de faire une expertise, c'est-à-dire de lire l'ensemble des papiers, des articles, des publications relatives au vaste domaine du climat planétaire. Et entre autres, outre les trois gros volumes que personne ne lit, sauf les spécialistes, évidemment, ont l'objectif, on va dire l'obligation d'éditer un résumé à l'intention des décideurs, c'est-à-dire nos gouvernants, qui s'appuient, ces gouvernants qui vont s'appuyer sur ce document pour ensuite développer les politiques publiques des territoires. Donc il y a eu différents rapports, donc je les rappelle rapidement, 1990, 95, 2001, 2007, et vous le savez, le dernier rapport, le rapport numéro 5, est publié depuis l'automne dernier, avec le volume 1, donc le volume 1 qui concerne les bases scientifiques et physiques du changement climatique et sont venus, ont été publiés ce printemps, un deuxième volume sur les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés face au changement climatique et enfin un troisième volume sur les mesures d'atténuation du changement climatique. Donc vous voyez que c'est très complexe, c'est très complet. Donc on comprend pourquoi il y a ces milliers de pages et un rapport final doit être publié à Copenhague à l'automne prochain. Alors les faits, ça va être assez rapide, tout le monde les connaît, mais c'est histoire vraiment de planter le décor et d'être sur des choses assez précises. Juste un rappel, le climat planétaire il évolue depuis que la Terre est créée et donc c'est quelque chose qui est, on va dire, assez normal. Et si on ne regarde pas trop derrière nous, mais juste sur les dernières 400 000 dernières années, on sait que la planète est passée par des périodes glaciaires, interglaciaires, qui s'expliquent par la mécanique céleste. La Terre plus ou moins proche du Soleil, l'obliquité de l'axe des pôles qui bouge et qui fait que voilà, la radiation, le bilan radiatif diffère et la climatologie planétaire avec. Ça, on le sait. simplement, on se trouve, donc je ne vais pas aller dans la précision des graphiques, mais nous, on se trouve donc sur la partie droite du graphique. On voit qu'on est donc enfin, on est sorti de la dernière période glaciaire il y a environ 10 000 ans et que l'on se dirige normalement vers une période glaciaire qu'on devrait atteindre d'ici, enfin d'ici, je ne vais pas donner de date, mais dans quelques dizaines de milliers d'années. Donc ça, c'est la logique, on va dire, naturelle. Ça nous laisse un peu de temps. Bon, sauf que là aujourd'hui, ce matin, et puis de manière générale, on ne se situe pas à cette échéance-là. On se situe plutôt vers un réchauffement, donc qui est avéré. Je vais y venir. La prochaine époque glaciaire, c'est pas encore pour nous. Donc, je rappelle par deux graphiques très rapides cette observation du réchauffement de l'atmosphère. Voilà, sans entrer dans les détails parce que j'ai vraiment pas le temps. On montre que ces observations sont faites dans le monde d'une manière générale. Alors avec une certaine prudence lorsqu'on dit que la température moyenne du globe est de 14,5 degrés. Si on dit ça à tout le monde, ça va peut-être pas dire grand-chose parce que 14,5, c'est pas très chaud, c'est pas très froid. Donc on comprend que ça permet la vie sur Terre, mais simplement on sait qu'il y a des endroits sur la Terre où il fait bien plus froid et d'autres où il fait bien plus chaud. Peu importe. Ce qui est important de dire, c'est que cette température globale augmente. Voilà, elle augmente et elle augmente donc un peu partout sur Terre et sur les continents et sur les océans. Et je précise en France parce qu'il faut toujours, lorsqu'on s'adresse aux personnes, quel que soit leur statut ou leur profil, il faut toujours essayer de ramener à son vécu. Donc, en France, qu'est-ce qui se passe ? La température augmente également, comme on peut le voir sur le graphique. Mais voilà, je vais passer très rapidement sur ces éléments. Ça donne quoi ? Donc, étude de Météo France sur le territoire national, métropolitain en tout cas. Donc, on voit que sur le siècle dernier, les températures ont augmenté environ d'un degré. On voit qu'il y a des différences régionales. Je n'entrerai pas dans les détails. Les détails entre les températures maximales et minimales, on voit que voilà, il y a une certaine spatialisation. Les études montrent des différences, aussi petit soit notre territoire à l'échelle planétaire, donc entre l'ouest, l'est, le nord ou le sud. C'est important parce que c'est important d'avoir cette précision d'étude parce que lorsqu'il s'agit de développer d'inventer des politiques territoriales, donc là où l'on vit et où on a besoin d'avoir des résultats, eh bien c'est bien d'avoir cette finesse de détails. Donc Météo France travaille ardemment là-dessus. Alors, on parle du GIEC et vous savez que la principale cause que l'on évoque depuis quelques années maintenant, c'est effectivement le lien entre les émanations de gaz à effet de serre qui sont additionnelles à l'effet de serre naturel. Je le rappelle, l'effet de serre est naturel sur la planète, mais il y a une addition. Cette addition serait amenée par les gaz à effet de serre. Donc, j'indique dans le titre de ce document donc une forte covariation, je vais expliquer, entre l'évolution de la température moyenne et la teneur en gaz à effet de serre. Donc GES, c'est gaz à effet de serre. Mais je pose la question, je me permets de la poser, preuve formelle de causalité. C'est-à-dire, je veux simplement dire en tant que scientifique, qu'une covariation n'est pas strictement synonyme de causalité. Alors, après, c'est une discussion peut-être sans fin, mais en tout cas, on peut la poser. Je n'ai pas la réponse, je la pose simplement. Que montre ce graphique ? Il montre trois courbes. On est toujours sur 400 000 ans. On a au milieu la courbe orange qui montre les variations de la température. La courbe jaune, qui montre l'évolution de la concentration du gaz carbonique, du CO2. Et la courbe bleue qui montre la variation sur la même période du méthane. Bon, et ce sont les deux, entre autres, les deux gaz à effet de serre qui sont pointés du doigt sur cet effet de serre additionnel. Et effectivement, à première vue, sur ce type de document, on voit que l'allure de ces variations est très, très ressemblante. Donc, c'est troublant. C'est troublant et on comprend pourquoi on travaille là-dessus. Bon. Ce CO2, donc on pointe du doigt, effectivement, lorsqu'on l'étudie dans sa composition, dans l'évolution de sa composition, toujours sur ces 400 000 ans, on peut aller au-delà aujourd'hui, on va jusqu'à 800 000, voire 1 million d'années, grâce aux carottes de glace. Bon, je ne reviens pas sur ces choses-là. On voit qu'il y a une alternance, voilà, des croissances et des décroissances. on les lie immédiatement aux périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, il doit y avoir un lien. Il doit y avoir un lien. Ce qui est important à retenir pour nous, c'est que cette concentration n'a jamais dépassé, allez, on va dire 300 parties par million. C'est l'unité que l'on utilise pour la concentration du CO2. Donc 300 parties par million, ok. Et on voit que ça évolue entre 200 et 300. Donc cette valeur de 300 ou c'est 280, on la cite généralement pour dire que c'est le seuil d'avant la révolution industrielle. C'est-à-dire que jusqu'alors, sur Terre, sur ces temps-là, on n'était jamais allé au-delà. Et depuis 150 ans, bah, cette concentration, elle explose. Vous avez la petite courbe rouge sur votre gauche qui indique qu'on s'en va vers des sommets dont on ne connaît pas, on ne connaît pas la limite. Là, juste un focus sur 2000 ans, donc c'est plus proche de nous. On a la concentration de ces trois. Alors on rajoute le protoxyde d'azote, le N2O, oxyde nitreux. Donc on voit qu'il se passe des choses à partir des années 1800-1850. Jusqu'alors, la variation est c'est un plateau, ça ne bouge pas. Hein, mais à partir de 1850, il se passe des choses, effectivement, au niveau du changement de la composition de l'atmosphère terrestre. D'où le lien avec le changement de la température. Juste pour rappel, ce tableau, je m'en tiens aux deux premières colonnes. Donc, les trois premières, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ce sont les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, comme il est indiqué. Simplement, savoir que ces gaz à effet de serre n'ont pas une durée de vie égale dans l'atmosphère. Dès lors qu'on relâche une molécule de CO2, on sait qu'elle va peu ou prou rester une centaine d'années dans l'atmosphère. Le méthane, une dizaine d'années. Bon. Quand on sait ça, c'est une indication, c'est important de le savoir. Simplement, c'est aussi très important de savoir que par une molécule de méthane par rapport à une molécule de gaz carbonique a un pouvoir réchauffant multiplié par 23. Donc, si on augmente, si on continue à augmenter, ou si l'augmentation du méthane décuple, en tout cas continue sur le rythme actuel, on peut se poser la question. En tout cas, on peut s'interroger et avoir peut-être un petit peu peur si on est persuadé effectivement que ces gaz à effet de serre sont la raison exclusive du réchauffement. Bon, mais c'est important de parler du méthane. J'aurai pas le temps d'en parler de toute façon en fin de présentation parce que le temps est compté. Mais le méthane est important, en particulier dans le domaine de l'élevage. Bon. Conséquences de ces modifications atmosphériques, quelques exemples. Je vais aller très rapide, j'ai des choses, à mon sens, un peu plus intéressantes. Donc, on sait qu'il y a de moins en moins de jours de gel, donc il fait moins froid, d'accord. Là, on a une étude avec deux stations françaises, Nancy et Toulouse, climatologie différente, mais les deux climats montrent des hivers de plus en plus doux, on va dire. Évidemment, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la fonte et le recul des glaciers de montagne, là, on est sur les continents, donc c'est classique. On a deux photographies. Les données historiques sont très importantes, vous le comprenez bien dans cette histoire-là. Donc deux photos d'un même glacier en même lieu. On voit que au début de la Deuxième Guerre mondiale, on avait une énorme langue glaciaire très bien alimentée et que c'est devenu un lac glaciaire tout simplement par la fonte. Bon. Là, on était à une échelle, on va dire, continentale, les gros glaciers d'Alaska. Qu'est-ce qui se passe à une échelle plus fine ? Plus fine, par exemple, un petit, tout petit massif montagneux de la planète, les Pyrénées. Bon, il ne reste plus grand-chose au niveau glacier. Si on va voir le glacier dessous dans le massif du Vignemale, c'était un petit appareil en 1911. On voit qu'en 2007, c'est une petite tache. Donc ça fonctionne aussi, ce réchauffement et cette fonte-là fonctionnent aussi dans des petits organismes. Évidemment, tout le monde a entendu parler de ces fameuses vendanges. Alors, on est dans le Saint-Émilionnais. Mais on observait ça dans beaucoup de vignobles de la planète. Donc des dates de vendange de plus en plus précoces. On voit sur ce graphique, on vous donne en ordonnée le jour de la vendange, le jour moyen, donc qui est signifié par la courbe lissée, la courbe rouge. On voit que voilà sur 1850, 1900, allez fin des années 80, on est sur le jour 270. Si je me souviens bien, c'est vers le 20 septembre, quelque chose comme ça. Et puis on voit qu'il se passe quelque chose, voilà, depuis le milieu des années, la fin des années 80, on vendange finalement de plus en plus tôt. Voilà, et on gagne 10, 15 jours, parfois plus lorsque les années sont particulièrement propices à la maturation du raisin. Bon. Autre fait observé, là, au niveau des océans, cela a été évoqué il y a quelques minutes. Là, ce sont les chiffres du cinquième rapport du GIEC qui nous disent qu'entre 1900 et 2010, le niveau des océans s'est élevé d'une manière en moyenne de 19 cm. Ça a été plus ailleurs, ça a été moins dans d'autres endroits. Mais ce document nous indique que l'accélération de cette montée des océans est évidente, en particulier depuis la période 1993-2000, puisqu'on passe de une augmentation de 1,7 mm par an à 3,2. Et il y a une accélération de cette fonte. Alors ça, c'est un thème qui, je trouve, qui est intéressant, qui est un petit peu lointain peut-être de nos préoccupations parce qu'on n'est pas entouré par les glaces en Bretagne-Charente, mais on a quand même un littoral, un très beau littoral, mais sableux. On va dire, on n'a pas d'immenses falaises, donc la hausse du niveau de la mer, il nous interpelle de toute façon, en tout cas, il devra nous interpeller. Alors, les projections du GIEC, je vais vous en donner quelques indications, donc du dernier rapport, quelques indications, c'est une bribe, hein, c'est une bribe parce que vous avez compris que c'était un document monumental et qu'il est tout frais et que personnellement, je n'ai pas eu le temps d'y mettre le nez, en tout cas, pas suffisamment. Et incertitude. Voilà, je me permets de parler de ces incertitudes, c'est-à-dire je n'aurai pas un discours affirmatif. Je pense que tout scientifique ne peut pas être dans une autre posture. Bon. Les projections thermiques et du niveau des océans selon le type de société future. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que les projections que nous fait le GIEC sont en rapport avec des scénarios de type de société susceptible de se développer dans les décennies à venir. Bon. On était à 6 ou 7 familles de scénarios dans le précédent rapport. Là, ils ont changé un petit peu et on est à 4 niveaux. Vraiment, pour simplifier, aux 4 niveaux sont associés une concentration de CO2, de la plus faible à la plus élevée. On met tout ça en machine. Je vais dire 2 mots tout à l'heure sur les modèles climatiques. Et forcément, on a des différences. Là, sur ce type de... je vais en mettre 2. On a 2 graphiques. Le premier qui concerne l'évolution de la température moyenne à échéance 2100 et à côté, l'élévation du niveau de la mer. Donc prévu également à échéance 2100. On voit 2 faisceaux. Un faisceau orange, un faisceau violet. Le faisceau orange concerne l'évolution, on va dire, du scénario le moins vertueux, le plus catastrophique, si on peut utiliser ce terme, en termes de production de gaz à effet de serre, de CO2 en l'occurrence. Et on voit donc la température, le seuil, je vais rajouter un tableau en bas, le seuil maximal qu'on nous indique, alors ça ne se verra pas, peut-être pas à la caméra, mais sur ce tableau, on a un 3,7, voilà pour la température, 3,7 degrés, on va dire 4 degrés, hein, de maximum, à l'échéance 2080-2100 par rapport à aujourd'hui, pour simplifier. On était dans le dernier rapport à peu près sur les mêmes longueurs, sur les mêmes grandeurs. Donc ça veut dire qu'entre le rapport 2007 et le rapport 2013, on est grosso modo dans les mêmes limites. Donc ça veut dire qu'on n'a pas progressé. Si, c'est une progression, c'est-à-dire que ça conforte ce que l'on connaissait déjà. Et les dernières recherches montrent que finalement, on est dans cette fourchette-là. Concernant l'élévation du niveau... ça c'est le faisceau orange. Le faisceau violet montre le meilleur des scénarios, donc il s'appelle RCP 2.6, oui, de 2.6, et donc qui montre à quoi va correspondre cette évolution thermique si on devient du jour au lendemain hyper vertueux, d'accord, par rapport aux émanations de gaz à effet de serre. Ben, on voit de toute façon que la température va quand même augmenter. Certes, le plateau va vite arriver, à partir du milieu de notre siècle. On parlait de 2050 tout à l'heure, ben voilà, c'est à peu près cette date-là. Il n'empêche que la température va augmenter. Elle a déjà augmenté, elle va continuer à augmenter. Ça, c'est le système de l'inertie du système climatique qui est lourd, et en particulier des océans. Et là, Dieu sait, je ne sais pas quel Dieu, mais en tout cas, on a pleine incertitude à ce sujet. Concernant l'élévation du niveau de la mer, même construction de graphique avec toujours les deux scénarios extrêmes, ben, on voit de toute façon que même avec le meilleur des scénarios, le niveau des océans va de toute façon augmenter irrémédiablement, avec toutes les conséquences que vous connaissez, que vous imaginez. Les chiffres, les chiffres, on nous donne maintenant, un 63 cm. Bon, j'entendais tout à l'heure parler de 1 mètre, 2 mètres. Bon, là, on peut aller loin. J'ai encore lu dernièrement, effectivement, on nous dit qu'il y a des gros glaciers, je vais juste le citer tout à l'heure, des gros glaciers, des plateformes glaciaires antarctiques qui sont en train de fondre, dont on ne connaissait pas jusqu'alors l'extrême vélocité, qui sont susceptibles à eux seuls, deux gros glaciers, de donner 1,20 m supplémentaire. Donc voilà, on est dans des proportions qui nous échappent un petit peu quand même. Le fait est que ça augmente. Donc, ce 63 cm, ok, dans les médias, on entend plutôt le 82 cm, c'est la fourchette haute du RCP 8.5, d'accord, là où on aura une concentration en CO2 très, très, très importante. Bon, ça, ce sont les résultats qui sont proposés dans les différents volumes, en tout cas le premier volume physique, on va dire, du GIEC. Juste pour rappel, pour information, le niveau prévu de concentration de gaz à effet de serre, de concentration de gaz à effet de serre équivalent CO2, je vous rappelle qu'on est à 400 actuellement, donc 490, à mon avis, on est déjà... ça, c'est même pas la peine d'y penser, parce que l'économie ne va pas s'arrêter, notre façon de vivre ne va pas s'arrêter aussi brutalement, on sera plutôt aux alentours de 600, 800, tout dépend. Bon, le 1370, il est très effrayant, parce que on se dit que c'est si on fait rien ou si on fait mal, parce qu'on peut aussi agir en pensant qu'on va agir bien et puis peut-être qu'on agira mal, ça j'en sais rien, mais bon, ben c'est il y a pas de filet dans tout ce que l'on va faire. Bon, j'ai mis ce document pour essayer de nous rapprocher de nos terrains et de nos environnements personnels. Bon, là on est sur l'Europe, c'est une chose qui est assez nouvelle dans le cinquième rapport, c'est-à-dire qu'on a fait, on a essayé de faire des études où on prend en compte l'ensemble des modèles climatiques qui existent. On en a deux en France, il y en a trois, je crois, en Chine, un peu partout au niveau des grandes puissances. On les a fait tourner et là, par exemple, on a les résultats, la projection thermique avec le pire des scénarios. Le RCP 8.5, donc vraiment là où ça va chauffer, ça va chauffer énormément. Et qu'est-ce qu'on voit ? On a deux temps, 2020-2049, 2070-2099, donc au milieu du siècle et à la fin. On voit qu'il y a des différences territoriales, saisonnières, des différences saisonnières et spatiales. Saisonnières, c'est-à-dire que... on a l'hiver à gauche, si vous voyez bien, et l'été à droite. Donc, en hiver, ce sont les hautes latitudes qui vont essentiellement se réchauffer, en tout cas plus fortement. Et on voit que dans ce modèle-là, à la fin du siècle, c'est un réchauffement énorme qui peut atteindre 8 degrés. En été, on voit que c'est plutôt un changement, une évolution latitudinale, c'est-à-dire qu'ici, le sud de l'Europe sera beaucoup plus chaud, va se réchauffer plus vite que le nord. D'accord ? Alors qu'en hiver, je ne l'ai pas dit, c'est plutôt les espaces continentaux qui vont se réchauffer plutôt que les espaces maritimes. Donc, pour ramener à notre petite vie de Picto-Charentais, Notre petite vie, c'est pas péjoratif, hein, mais notre vie personnelle. L'hiver, bah, écoutez, l'hiver, il fera de plus en plus doux sur notre littoral. Bon, c'est peut-être pas quelque chose de très, de très dramatique. Et les étés, voilà, les étés seront plus chauds. Je parle du littoral. Évidemment, à l'intérieur des terres, on voit que la couleur orange arrive vite, donc il fera chaud. Attention, on est dans le pire des scénarios. Donc, bon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est mon côté optimiste. Comment on peut arriver à ce type de projection-là ? Ben, on fait non pas des paris, mais les résultats des études montrent eh bien, qu'il y aurait moins de nuages dans le sud en été, donc un ensoleillement exacerbé. D'accord ? Et qu'il y aurait moins de neige dans le nord en hiver. Qui dit moins de neige en hiver dit un pouvoir réfléchissant moindre, donc une absorption de la chaleur supplémentaire qui fait que les contrées nordiques vont se réchauffer très rapidement. J'ai mis ces deux documents pour montrer les changements entre le 4e et le 5e rapport. Voilà, on est à 6 ans. 6 ans, c'est rien en science. Voilà, c'est pas grand-chose, même si beaucoup, beaucoup, beaucoup a été fait. De mémoire, je crois que les relecteurs du volume 1, donc des aspects physiques, ont épluché, pardonnez-moi l'expression, mais plus de 9000 articles. Bon, c'est monumental. C'est monumental. D'ailleurs, ça peut laisser perplexe. On peut se dire comment on peut arriver à faire une synthèse de toute cette matière grise. Voilà. Mais on y arrive. Voilà la preuve. Donc, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, on a affiné, c'est-à-dire on sent, rapport après rapport, on affine ces pronostics, voilà, d'évolution de deux paramètres ici, à savoir la température et le niveau des océans. Mais grosso modo, on voit qu'au niveau thermique, finalement, ça ne change pas beaucoup. Là où ça change, c'est au niveau de l'élévation du niveau des mers. Et ça, je pense que c'est une... Enfin, à mon humble avis, c'est quelque chose de très sensible et qui risque de nous surprendre. Alors, je parlais des certitudes dans mon titre général. Les modèles climatiques, donc ce sont d'eux que sortent les fameuses projections. Ce sont des outils hyper complexes et perfectibles. Complexes, pourquoi ? Vous voyez comment ça fonctionne ? C'est le principe du maillage. C'est-à-dire qu'on va mettre en boîte, bon, l'expression peut-être est un peu triviale, mais bon... elle est peut-être illustrative, on met en boîte dans des petits cubes et l'atmosphère et les océans. À l'intérieur de ces boîtes, on calcule des algorithmes, on fait tourner ces équations pour faire fonctionner dans ces petites boîtes l'atmosphère avec les paramètres, température, humidité, vent, pression, etc. Et ces petites boîtes communiquent les unes avec les autres et de la sorte, on fait communiquer tout cet ensemble, et ça fait fonctionner le modèle qui nous donne des projections. Vous voyez par l'un des petits dessins qu'il y a aussi un découpage des océans. Ça indique quoi, ça ? Ça indique en fait que ces modèles climatiques sont censés représenter le fonctionnement du climat planétaire, c'est-à-dire du fonctionnement de l'atmosphère, mais qui lui-même est en lien direct avec l'hydrosphère, les océans, mais aussi avec la cryosphère, le monde des glaces, avec la lithosphère, les continents, avec la biosphère. Tout ça, c'est en sphère. Mais ça veut dire que, voilà, on a l'homme à la prétention, et c'est très bien, pour les scientifiques. On a la prétention de se dire, ben, voilà, on arrive à mettre tout ça en équation, cette grande complexité, on met ça en équation sur une page, dans un ordinateur, un supercalculateur, et on fait tourner. Donc c'est pour ça que je dis c'est complexe, et d'une part, la vie terrestre est complexe en elle-même, au-delà du système climatique, mais perfectible parce que voilà, cette complexité, aujourd'hui, n'est pas dominée par l'intelligence humaine. On essaie de s'en approcher, on fait beaucoup de progrès, et la technologie nous y aide, mais c'est compliqué. Mais on avance, et on avance vraiment, et ça c'est très excitant aussi, on avance assez vite, puisque finalement, vous voyez, ces petits carrés, ils ont, on va dire, un côté. Bon, si ce sont des carrés, bon, c'est parfois des briques. Bon, là, on va dire que ce sont des carrés. En 2001,
Donc c'était le troisième rapport, 500 km de côté. D'accord ? L'évolution informatique faisant, la puissance des processeurs fait qu'on a pu réduire la maille à 300 km. Et en 2013, on est à 150 km, voire moins. Ça veut dire qu'on multiplie le nombre de petits carrés. Plus la maille va être fine, plus l'efficacité des traitements va être avérée. D'accord ? L'idéal, ce serait d'arriver à des choses extrêmement fines et qui permettraient finalement d'arriver à des, non plus à la limite des projections, mais à des prévisions. Alors, pour illustrer, pour terminer sur les modèles climatiques, les modèles prennent de plus en plus d'éléments en compte pour faire les traitements, à savoir meilleure prise en compte des aérosols, du cycle du carbone, des nuages, de l'ozone, de la biologie marine, de la circulation océanique, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que le système climatique, l'atmosphère, est en relation avec tous les autres éléments de la planète. Et c'est ce qui fait que c'est quand même un problème très, 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 très compliqué à gérer. Juste pour faire un rappel, mais pour essayer de fixer les choses, dans la prévision du temps. Alors, la météorologie n'est pas la climatologie. La météorologie, on est dans l'instantané, pas en climatologie, où là, on est sur le temps long. Mais regardez comment est représenté, avec trois modèles de prévision du temps, Arpège, Aladin, Arom, comment est représenté le massif alpin. On voit que lorsque la résolution diminue, de 15 km à 2,5 km pour Arom, forcément, les vallées, les grandes vallées alpines apparaissent. Avec une telle finesse, la prévision du temps va être beaucoup plus précise. Et on s'approche là, de la réalité et puis d'un gain en efficacité. Ben, pour les modèles climatiques, ça va être la même chose. D'accord ? On essaie d'améliorer le plus possible cette histoire-là de finesse pour arriver à une meilleure pertinence des résultats. Autre incertitude, moi qui me plaît parce que je suis passionné par les nuages, en 2006, alors 2006, ça peut paraître assez loin, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas très très loin, mais on peut évoluer assez rapidement. Une responsable américaine d'une mission d'observation des nuages par satellite indiquait « Le manque de compréhension de l'effet des nuages est largement reconnu par la communauté scientifique pour être un obstacle majeur à une prévision crédible du changement climatique. » Les mots sont très forts. Les mots sont très forts, en particulier les adjectifs. Prévision crédible, donc ça veut dire que finalement les prévisions ne sont pas crédibles, et obstacle majeur. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec les progrès faits dans ce domaine-là, on pourrait peut-être enlever majeur. On a toujours obstacle, d'accord ? Et crédible, on pourrait également l'enlever. Il n'empêche. Deux exemples, je vous ai mis deux photos, pas innocentes. Une photo, on est dans la région, hein. Voilà. Une photo de nuages bas, de type stratocumulus, cumulus, et des nuages hauts, comme vous connaissez, avec, alors je l'avais fait volontairement cette photo, parce qu'il y avait aussi plein de traînées d'avions, traînées de condensation, j'ai pas le temps de dire pourquoi. Et en fait, que montrent les résultats des modèles par rapport aux nuages ? Les nuages d'altitude donnent une réponse identique selon les modèles climatiques. C'est-à-dire, les nuages d'altitude ont une capacité à réchauffer l'atmosphère. En revanche, les nuages bas sont plus problématiques et ils donnent des réponses différentes selon les modèles. Tantôt, ils sont réchauffants, tantôt, ils sont refroidissants. Bon, ça montre que on a encore des choses à apprendre par rapport aux nuages. Or, on pourrait imaginer que dans une atmosphère plus chaude, capable de contenir plus de vapeur d'eau, peut-être qu'on aurait une condensation supérieure à celle qui existe aujourd'hui, et donc plus de nébulosité. Si on ne sait pas trop comment les nuages quel va être le rôle des nuages par rapport à l'effet de serre, eh bien, on est un petit peu interrogatif. Bon. Et il y a beaucoup de nuages sur Terre. J'en viens, alors c'est un petit peu brutal, mais c'est assez compliqué quand même de présenter tout ça. Donc en fait, la réflexion, ensuite c'est la réflexion du géographe également, qui part du global, qui n'arrête pas de jouer avec les échelles, et donc il se dit que, on a le système Terre, mais on est concerné, on doit aller jusqu'à l'échelle fine des écosystèmes locaux. Et on a ici des enjeux multiples et complexes, évidemment. Et je prends comme exemple il me reste combien ? Un petit quart d'heure, donc jusqu'à 25, merci. Je prends l'exemple des hautes latitudes. Tout à l'heure ont été cités les tropiques, ont été cités les régions tempérées, il me semble. Bon, ben moi, je m'en vais aux hautes latitudes et vous savez qu'il s'y passe des choses. Nouveau constat, le réchauffement en Alaska, par exemple. Deux documents, une carte qui montre par des chiffres l'évolution de la température sur la deuxième moitié du XXe siècle, 1950-2010. On voit que ça augmente partout, même en mer. Hein, le 0,9, il est intéressant parce que voilà, on sait que les océans sont beaucoup plus lents à se réchauffer, etc. Mais approcher 1 degré, c'est important. Sur les continents, c'est beaucoup plus. On est dans une région quand même où il fait plutôt frais, voire froid. La courbe d'à côté montre pour une station connue de Fairbanks le nombre de jours sans gel. Et on voit entre 1900 et 2000, et on voit voilà que cette courbe, bien illustrée par la courbe de tendance rouge, par la droite de tendance rouge, montre que ce nombre de jours sans gel augmente très nettement ou a augmenté, pardon, puisque ça c'est de l'observation, c'est pas discuté et c'est pas discutable. Hein. Augmente. Donc le réchauffement, il n'y a pas de souci, mais il est puissant. Il est puissant. On entend parler régulièrement, année après année, depuis quelque temps, de la diminution de l'extension de la banquise arctique estivale. Alors là aussi, il faut faire attention. Alors, quand je dis il faut faire attention, par rapport aux médias, les médias sont très importants, mais lorsqu'on entend quelque chose, il faut essayer de savoir quand même ce qu'il y a derrière et peut-être creuser. Ce n'est pas une critique, c'est une remarque. Cette banquise arctique, lorsqu'on dit que la banquise est de moins en moins importante, c'est bien en été. En hiver, la banquise est toujours là. Et je pense qu'elle y sera encore un certain temps. Enfin, peut-être à jamais, on ne sait rien. Bon, bref. Donc en fait, c'est en été que cette banquise est de plus en plus fine et peu étendue. Et ça, c'est un signe flagrant que et l'atmosphère et la température de l'eau augmente. On a une courbe ici qui montre pour juin, juillet, août, septembre l'extension maximale. La courbe grise et on va dire le comment on appelle ça non pas, pas un pointillé mais le dessin gris, bon, je trouve pas mon mot, voilà, qui montre à peu près l'intervalle de cette extension. Bon, on voit que cet intervalle est assez important. Néanmoins, la courbe la plus supérieure, c'est la moyenne entre 1980 et 2010. Bon, on voit que toutes les autres courbes, qui représentent 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, sont en deçà. C'est-à-dire que depuis les années récentes, l'extension de la banquise est de toute façon inférieure à ce qu'on a observé pendant 30 ans, entre 1980 et 2010. Si on s'attache au mois de septembre, on voit qu'entre 1978 et 2013, voilà, c'est irrémédiablement une baisse enregistrée, observée de cette extension de la banquise. Bref, il y a de moins en moins de banquises à la fin de l'été en Arctique. Résultat. Et c'est là que je rebondis sur mon histoire de sociétal tout à l'heure dans mon titre général. C'est-à-dire que ce changement climatique, il intervient certes au niveau du système Terre, mais forcément, il intervient après sur les sociétés. Qu'est-ce qu'on fait de notre environnement? La une du New York Times du 19 septembre 2009, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous montre voilà, deux navires, et en fait, c'est un navire allemand escorté par un brise-glace, mais surtout, ça, à la limite, c'est un peu banal, mais c'est dans un endroit particulier qui est le fameux passage du Nord-Est et qui n'avait jamais été utilisé pour la navigation. Donc, en fait, je mets le projecteur, je fais un coup de projecteur sur l'article qui, pour moi, est un océan. Bon, c'est un petit jeu de mots facile, mais un océan d'enjeux, des enjeux voilà, géostratégiques, géopolitiques, économiques, on les connaît parfaitement. Et on peut se dire, de toute façon, si cet environnement qui était autrefois, qui est toujours hostile, mais qui l'est de moins en moins, permet aux hommes de se l'approprier et d'aller un petit peu voir ce qui s'y passe, en particulier dans les fonds sous-marins ou dans le sous-sol, des continents normalement gelés, mais qui le sont de moins en moins, eh bien, on connaît la fragilité la fragilité de ces milieux nordiques. On peut se dire, en tout cas, on peut avoir peur quant à à la manière dont les sociétés vont s'emparer de ces nouveaux territoires qui se libèrent finalement à l'exploitation. Juste ce document pour montrer cette problématique des routes maritimes. Imaginez un cargo, un porte-conteneur qui part de Rotterdam, qui doit regagner le port de Tianjin en Chine. En moyenne, par le canal de Suez, la voie habituelle, la voie sud, eh bien, il va mettre 48 jours. Si la route du Nord-Est devient, dans les années à venir, navigable, à un certain moment de l'année, on a bien compris que c'était uniquement en été, et encore qu'il y aura de gros glaçons, eh bien, on est à 33 jours. Bon, bah, on, je ne vous fais pas de dessin. Au niveau économique, c'est très intéressant pour l'armateur, tout point de vue. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un trafic peut augmenter dans ces contrées-là. On n'imagine pas des accidents. Parce que si jamais il y en avait, des naufrages, les conséquences en seraient très importantes au niveau environnemental. Je vais passer sur cette diapositive qui montre que les modèles, finalement, ce sont deux modèles français. Bon, je veux quand même le modèle du CERFAX de Météo France et de l'IPSL, Institut Pierre-Simon Laplace, qui montre à quoi ressemblerait la banquise d'été, la banquise d'été à la fin du siècle, c'est un peu loin pour nous, mais selon un scénario vertueux, RCP 2.6 est le scénario le plus pessimiste. On voit que si on fait des efforts, voilà, mais vraiment des méga efforts par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il y aura toujours une banquise, mais simplement, elle sera un petit peu portion congrue. Les modèles sont convergents. Ils sont encore plus convergents pour la fin du siècle, pour le pire des scénarios, c'est-à-dire, voilà, il n'y aura plus de banquise de toute façon en été, à l'échéance de 2100, si on ne fait pas plus attention que cela à nos émanations de gaz à effet de serre. Le graphique du bas montre cette fameuse extension. Je n'y reviens pas, ça corrobore les résultats de ces projections. Cette diapositive, elle est toute récente, elle fait référence à des études qui viennent de sortir, c'est vraiment tout frais. Bon, ça vient de l'Antarctique, donc voilà, c'est forcément un peu froid, mais qui montre finalement que, ce que je disais tout à l'heure, l'accélération, en particulier de la partie ouest du continent antarctique, cette accélération est désormais évidente. Et ça interroge les chercheurs, ça les interroge dans le sens, peut-être qu'on est vraiment en sous-estimation de la hausse, la prochaine hausse ou la hausse actuelle du niveau des mers. Parce que si ça va plus vite que l'on avait prévu, et c'est ce qui se passe, il y a possiblement ou probablement péril pour certains territoires. On entendait parler tout à l'heure des petits états insulaires, effectivement, qui connaissent déjà cette problématique-là, mais qui risquent de la connaître encore plus violemment. Mais ça nous concernera aussi, puisque cette hausse-là sera très importante. Juste pour l'indication, vous voyez sur le graphique, sur la coupe AB, on voit donc l'Inland 6 antarctique qui repose sur le socle rocheux, et on voit qu'il y a des barrières glaciaires, c'est-à-dire les glaciers qui vont dans la mer et qui forment et qui flottent. Et en fait, on se rend compte que dessous, voilà, les eaux se sont réchauffées, il y a des courants chauds qui remontent et qui grignotent et qui fragilisent de plus en plus ces barrières-là. Et les images satellitales, alors, qui aident aussi à arriver à ces résultats-là, les images satellitales sont de plus en plus précises, sophistiquées, et qui permettent de voir effectivement qu'il y a une dislocation de plus en plus importante de ces grandes barrières glaciaires. Alors, les solutions, 8 à 10 minutes. Je vais aller vite parce que les solutions, on les connaît, on en a déjà plein. En Poitou-Charentes, elles ont été présentées tout à l'heure. Voilà, il faut changer nos modes de vie et peut-être aller vers la géo-ingénierie climatique. Alors, Kesako, pourquoi j'en parle ? Parce que dans le cinquième rapport, les scientifiques ont demandé que ça apparaisse. Ça n'apparaissait pas dans les autres rapports. C'est tout simplement l'homme qui va essayer de changer le climat. Bon, tout simplement par des méthodes, par des technologies hyper sophistiquées. Là, on joue à l'apprenti sorcier. Mais voilà, il y a des laboratoires qui font des expériences in vivo, hein, dans des parties océaniques, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais on essaie de changer finalement le bilan radiatif de la Terre, hein, de capter, de, d'empêcher qu'il y ait trop de radiation solaire qui arrive à la surface de la Terre pour essayer de maîtriser cela. Là, par contre, l'homme est un petit peu prétentieux. Bon, ça ne regarde que moi. Régler la question énergétique, on en a entendu parler, ça semble évident. Et ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que ce changement climatique, si tant est qu'il n'arrive pas à interpeller les gens, parce que voilà, de dire qu'à l'échéance 2100, ça va augmenter de 4 degrés, franchement, ça n'excite peut-être pas grand monde et on ne sait pas ce que c'est. 4 degrés, c'est rien, 4 degrés. Hein, d'accord ? C'est le matin, j'ai la gelée sur ma voiture et puis quelques heures après, j'ai 4 degrés, ça a fondu. Bon, ok. Simplement, c'est énorme à l'échelle de la planète. Mais ça veut dire que ça va nous inciter à nous focaliser sur d'autres problématiques liées à l'environnement et des choses qui vont nous parler. Et donc, la question énergétique, elle est évidente. Je mets quelques exemples là, ce n'est pas complet, évidemment. J'allais dire, j'espère que je ne froisse personne, mais de toute façon, peu importe, on a toute notre liberté de parole. C'est-à-dire que voilà, moi, je mets l'énergie nucléaire, c'est une source d'énergie. Ensuite, elle sera gérée comme elle sera gérée par nos politiques nationales et mondiales. Mais j'aurais pu mettre une centrale à charbon. Le charbon, j'allais dire renaît de ses cendres. Mais on sait que, en Chine par exemple, je ne vais pas te donner de chiffres, mais on construit de nouvelles centrales à charbon. Alors elles sont plus vertueuses. Je crois que EDF est sur le coup. Donc il y a aussi plein de d'enjeux. Hein. Sur des super centrales, j'appelle ça des hyper super critiques, des choses comme ça. Donc c'est un peu du jargon, mais qui sont censées émettre moins de CO2, être plus efficaces au niveau de la combustion. Bon, ça c'est la technologie qui va évoluer. Soit dit en passant, cette technologie-là, ces nouveautés, elles ne sont pas intégrées dans les modèles climatiques. On ne sait pas faire ça. Donc, lorsqu'on fait des scénarios, c'est bien, c'est obligé, c'est partie des hypothèses scientifiques, mais il y a plein de paramètres qu'aujourd'hui, on ne sait pas mettre en équation et dont on n'imagine même pas la réalité un jour. Est-ce que pour autant, il faut rien faire ? Évidemment que non. Mais c'est simplement une alerte. Le dioxyde de carbone, on sait qu'il faut... Combien ? 5 minutes ? 5-6 minutes. Le dioxyde de carbone, on sait qu'on a des technologies aujourd'hui qui peuvent capter le carbone à la source. Ça veut dire quoi ? Ça veut donc dire qu'on continue à émettre du CO2, mais on en capte une partie. Cette partie qui sera captée, qui sera mise soit... sous terre, soit sous mer, eh bien, elle ne va pas se retrouver dans l'atmosphère. Donc, elle ne va pas participer à réchauffer encore plus l'atmosphère. Parce que, entre nous, on ne va pas passer du jour au lendemain dans une économie décarbonée. Ça, ce n'est pas possible. Simplement, il y aura des paliers. Là, ça peut en être un. Il y a toujours des problèmes dans les nouvelles technologies. Il y a des incertitudes sur le risque de pollution. Que vont devenir ces réservoirs pleins de gaz carbonique à terme ? Alors à terme, 100, 200, 300 ans, je ne sais pas. Et une technologie qui est encore coûteuse. Bon, mais c'est en cours. Par exemple, le site pilote de Antomin en Espagne, en Castilleón, est en train d'être mis en production. Donc ce printemps 2014, on fait des essais. Les Norvégiens sont en avance. Ça fait plus de 20 ans qu'ils utilisent cette technologie. Les options de la géoingénierie, donc je vais passer rapidement, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer des processus atmosphériques ou continentaux, c'est-à-dire au niveau de la surface de la Terre, pour essayer d'empêcher un apport radiatif trop important. Mais je passe. J'ai bientôt fini. Vraiment, j'ai bientôt fini. Vous me direz, tiens, qu'est-ce que ça vient faire, ça, projet européen, brise-glace ? Bon. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre, par exemple, pour l'Union européenne, comment les États ou les ensembles régionaux politiques peuvent s'emparer ou peuvent réagir par rapport à ce contexte de changement climatique. Vous avez là un magnifique brise-glace, un puissant bâtiment qui est en construction, je crois, en Allemagne actuellement. Donc un beau projet, donc très bien. Simplement, Alors, pas simplement. Dans ce document, on vous indique que c'est un bâtiment de recherche climatique et biologique. Super, très bien. Sauf qu'on nous précise quand même que ce bâtiment est capable de forer, donc ça c'est bien, pour faire des carottes, etc. Mais il va donc à travers la banquise jusqu'à 1000 mètres dans les sols marins situés à 5000 mètres de profondeur. Donc ça veut dire que, ok, c'est probablement un bâtiment scientifique, mais peut-être pas que. Parce que si un jour l'Arctique est vraiment libéré de ses glaces en été, je ne pense pas que les Européens vont regarder les Canadiens, les Russes, les Norvégiens s'occuper un petit peu du territoire et puis rien faire et rien dire. Donc peut-être que l'Union Européenne, peut-être en deuxième plan, regarde un petit peu, observe et se prépare à de futures explorations, exploitations, j'en sais rien. Mais je trouve ça intéressant. Je passe sur les gaz à effet de serre et l'élevage. Voilà, ça aurait été rigolo, mais je n'ai pas le temps. Hein, voilà. Et je termine par une note quand même un petit peu optimiste. J'ai la faiblesse, enfin c'est pas une faiblesse, de penser que le réchauffement, c'est pas forcément la catastrophe annoncée noire, mais que voilà, au niveau agricole par exemple, on peut avoir des effets intéressants d'avoir des hivers moins froids et des étés plus chauds et par exemple dans le cas de la vigne, pouvoir en Angleterre, avoir un vignoble qui va se porter peut-être de mieux en mieux et proposer des vins très intéressants, comme c'est le cas déjà. Bon, et là, il y aurait plein de choses à dire également. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Oui, vous pouvez. 1, 2, 3. Ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est un effet encore du changement climatique. Une ou deux remarques, Daniel, si tu le permets. Je trouve que ce que tu nous as présenté est extrêmement intéressant parce qu'on touche du doigt effectivement la complexité, je dirais, du phénomène. On voit que les chercheurs qui sont très spécialisés, je veux dire, dans leur discipline, les chercheurs qui participent au rapport du GIEC, qui sont très spécialisés dans leur discipline, affinent effectivement leur connaissance sur tout un ensemble de domaines. Ce qui nous manque encore, même si c'est une des avancées, je dirais, du dernier rapport du GIEC, c'est évidemment toutes les conséquences des différents facteurs qui interagissent les uns sur les autres. Et je donnerai l'exemple, et c'est vrai qu'on a assez longtemps négligé le rôle de l'océan, je dirais, dans tous ces phénomènes. Là, on voit qu'on le prend bien en compte maintenant. La question notamment de l'élévation du niveau de la mer, c'est évidemment dû à la fonte des glaces, c'est aussi dû à l'élévation de la température des océans, qui fait qu'évidemment la masse, évidemment, il y a une masse thermique qui augmente. Et puis le rôle de l'océan qui absorbe quasiment la moitié des gaz à effet de serre aujourd'hui avec tous les problèmes d'acidification que ça peut avoir. Et c'est vrai que la région Poitou-Charentes est aussi concernée par ce phénomène-là. Et il faudra évidemment être très, très, très averti et très vigilant par rapport à ça dans les années qui viennent. Merci beaucoup pour cette présentation qui va être disponible sur le site internet, le PowerPoint. Alors on aura l'occasion de revoir en détail l'ensemble des courbes, des chiffres, etc. et donc d'affiner un petit peu notre connaissance du phénomène. Mais en tout cas, grand merci pour cette présentation très, très pédagogique qui nous donne vraiment l'envie de nous plonger dans les 900 pages, je crois. Le dernier rapport, ça va être 900 pages du GIEC. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Alors, maintenant, on va passer du macro au régional. On est parti. Pardon ? Alors, écoutez, on va prendre 2-3 minutes parce que. Allez-y. Alors, allez-y, mais deux, très, très bref, s'il vous plaît. Un micro.
Je ne sais pas si ça marche.
Oui, ça marche. Allez-y.
Je remercie notre collègue sur son intervention. Mais je voulais mettre le doigt sur quelque chose dont il ne nous a absolument pas parlé, c'est que depuis 16 ou 17 ans, la température du globe ne change pas. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui n'avait pas été prévu par le GIEC. Parce que si on regarde ce qui se passe, normalement, dans tous les trucs, la température aurait dû augmenter. Or, elle n'a pas augmenté. Et ça, c'est un problème qui est vraiment crucial. Et je voudrais vous parler d'un scientifique anglais qui s'appelle Lovelock, et qui a fait quelque chose d'important. Lovelock, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup au réchauffement climatique, comme moi d'ailleurs. J'y croyais dans les années 80, il y a cru. Et puis tout d'un coup, il y a quelques années, il s'est posé une question en disant je me suis fait complètement avoir. Je n'avais pas tenu compte de l'inertie du système et je n'avais pas tenu compte justement de ce que les océans pouvaient absorber. Et ça, c'est très important. Et il a dit, son interview, vous pourrez la voir, je donnerai des références si vous voulez, il a dit, eh bien, je me suis complètement trompé et dans les années à venir, tous les scénarios qui sont faits sont des scénarios catastrophiques qui ne correspondent pas à grand-chose. Alors si j'interviens ici, c'est parce que je suis un ancien de Mendès France et j'ai toujours eu à cœur que l'on parle, que l'on débatte de tout. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on aborde cette question. Il y a beaucoup de gens, pas tellement en France, ou du moins qui ne se manifestent pas beaucoup, mais à l'étranger, qui remettent en question les décisions du GIEC. Et je vous citerai une... Bon, il y en a plein, il y a plein de sites, il suffit d'aller se promener. Je vous citerai un truc qui est le site qui s'appelle Pensée Unique, qui a été fait par un scientifique français, qui existe depuis 2005. C'est devenu un site coopératif où il y a plein de gens qui viennent s'exprimer et c'est très, très intéressant, vous devriez aller y voir. Si je vous fais cette allusion-là, c'est parce que le GIEC en est conscient. J'ai entendu José il y a quelque temps qui disait « Ah ouais, mais c'est vrai, ça ne bouge pas beaucoup, il doit y avoir des explications. » Il appelle ça le hiatus. Le hiatus ou le plateau. Ou le... Bon, mais il faut aller y voir, effectivement. Et les gens du GIEC, américains, se sont dit « Bah ouais, c'est vrai, il doit avoir raison. » Donc, on va essayer d'aller voir. Ils ont été voir, ils ont trouvé des explications. Des explications, il y en a tout un tas. Ils ont trouvé des explications qui pourraient être justement le fameux El Niño, El Niña, c'est-à-dire ce qui se passe dans le Pacifique Nord. Et cette explication, ils ont montré qu'effectivement, on était rentré dans une phase négative de El Niño, c'est-à-dire de circulation du Nord, et par conséquent, le gaz carbonique, la chaleur, pardon, était emmagasinée dans les océans. Et ça, ça dure depuis 1998. Donc, il trouve cette explication et il dit, dans quelque temps, ça va peut-être revenir. Ce à quoi une objection lui est faite, mais si c'est dans ce sens-là, quand il y a des côtés positifs de El Niño, eh bien, ces côtés positifs font qu'il devrait se produire le même. Et qu'en est-il du gaz carbonique? Il n'est pas du tout évident que le gaz carbonique soit à l'origine de cette affaire-là.
D'accord, donc, on va rester là, s'il vous plaît.
Je vais arrêter. Juste une dernière chose. Et moi, en tant que membre mais aussi en tant que scientifique, je suis absolument scandalisé de voir que dans quelques années, on va pouvoir dire « Ah, mais les scientifiques nous ont encore bernés ». Ce n'est pas vrai, les scientifiques ne vous bernent pas, c'est le GIEC qui vous berne. Et avec les relais d'opinion, puisqu'en France, les relais d'opinion sont très forts, vous avez Libé, vous avez Le Monde, vous avez dans une certaine mesure Mediapart, puisqu'il est intervenu aussi, qui nous raconte régulièrement des histoires. Mais je me tiens à votre disposition pour tout vous expliquer. J'ajoute que cette intervention est une intervention personnelle. Merci. Est une intervention
pas de problème.
Personnelle.
On a bien compris.
Ne met pas du tout en cause l'espace Mendès France.
On a bien compris. Merci. Alors, on va passer maintenant, donc, comme j'ai du macro au régional. On a commencé par le régional, on va repasser au régional. Et je vais donner la parole, parce que je crois qu'il y a un autre engagement après. Je vais donner la parole à Philippe Dutruc, qui est président de la CCI des Deux-Sèvres, vice-président de la conférence permanente des CCI de France et aussi expert auprès de la Commission européenne. Et donc, bien sûr, qui va nous parler, je ne veux pas dire de la responsabilité, mais du rôle, je dirais, des acteurs économiques et puis des prises de conscience qui sont faites par ces acteurs économiques par rapport justement à cette question climatique.
Bonjour. Le petit débat qui vient d'avoir lieu là me fait une bonne transition pour ce que je voulais dire. Le monde de l'entreprise est très pragmatique. Il constate le débat qui a lieu. Il n'a pas forcément, enfin, tous les entrepreneurs n'ont pas forcément la capacité intellectuelle de comprendre ce que dit le GIEC ou d'autres scientifiques. D'autant qu'ils sont un peu perturbés parce que les soi-disant experts économiques n'ont pas réussi à prévoir la chute de Lehman Brothers. Et donc, ils disent finalement, tous ces experts, c'est bien joli, mais ce n'est pas ça qui nous enseigne des choses très pratiques qui nous permettent de voir notre environnement à courte durée. Ils sont pragmatiques et par conséquent, ils disent, c'est peut-être un risque. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, de très nombreux entrepreneurs sont responsables de ce côté-là. Ils réfléchissent à toutes les pistes qu'ils peuvent prendre pour limiter leur impact, l'impact de leurs entreprises ou de leur activité industrielle sur l'environnement. Au niveau Poitou-Charentes, une petite enquête de l'année dernière montre que l'énergie pèse à peine 10% dans les bilans de la moyenne des entreprises de Poitou-Charentes, mais 73% d'entre eux ont déjà entamé des mesures de réduction de consommation. Et ils l'ont entamé principalement en faisant des modifications comportementales. C'est-à-dire que ce n'est pas que des investissements, ce n'est pas que des changements de process. C'est aussi beaucoup du travail sur la façon de travailler de leurs ouvriers. Tout bêtement, on sait que le transport pèse très lourd dans la consommation énergétique, sur des formations à la conduite moins consommatrice. Hein, ça a l'air de rien, mais ça va très vite quand on le fait. Donc les entrepreneurs, globalement, ils ont bien compris cette importance. Deuxième niveau, on le voit aussi sur les pratiques de RSE. Pendant très longtemps, l'assurance qualité, et après il y a eu l'assurance environnement, et après l'assurance sécurité, bon, tout ça, les gens le voyaient comme une contrainte qui était peu ou prou imposée par le donneur d'ordre. Les grands donneurs d'ordre demandaient à leurs entreprises d'être titulaires d'une certification ISO 9000, etc. etc. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui inversent la donne, qui disent je veux plus parler de ça, je veux parler de la RSE. Alors c'est pas une certification puisque l'ISO 26000 ou Agenda 21 si on veut suivre les préceptes liés aux collectivités, c'est quelque chose qui est simplement volontaire, qui peut être attesté d'une démarche mais pas certifié. Et ils commencent de plus en plus à dire ça, c'est quand même intéressant, comment je me situe dans mon environnement. Donc on démarre sur une démarche RSE, et ensuite on passe aux données complémentaires que sont la qualité, la sécurité, l'environnement, QSE, qui est plus pragmatique et plus économique, on va dire comme ça. Donc voilà, je pense que vraiment il faut qu'on torde l'esprit, le cou à cette idée que l'entrepreneur ne se préoccupe pas de son poids sur la société. Alors bien sûr, il y en a toujours, hein, on va pas tout le monde, nul n'est parfait, mais globalement, c'est une donnée qui est très importante. Alors peut-être plus importante en Poitou-Charentes, puisque poussé par l'aspect régional, certains ont démarré plus tôt. Nous, enfin, en Deux-Sèvres, par exemple, on a démarré dès 2000 une procédure qu'on a transformée un dossier qui s'appelle Entrepreneur du développement durable en 2004 au niveau départemental puis régional. On a aujourd'hui près de 2000 entreprises qui ont travaillé sur le sujet, sur 32 000. Alors, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est quand même un effort déjà avéré. Et sur des tas de sujets, hein, j'ai dit, le RSE, sur l'économie d'énergie, sur l'éco-conception, hein, qui était un choix très important pour éviter de créer des déchets pour demain. Et maintenant, un vrai focus très important sur l'économie circulaire, hein, qu'il ne faut pas résumer à comment je transforme un déchet en matière première. Hein. Trop souvent, on considère que c'est ça la volonté de l'économie circulaire. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus productif que ça et beaucoup plus... important pour l'environnement que ce qu'on veut bien dire comme résumé. Voilà un grand sentiment sur l'entreprise. Hein. Alors bien sûr, on se confronte, alors ça c'est un autre de mes volets, hein. je suis bien sûr président des Deux-Sèvres, mais j'anime la commission de développement durable pour l'ensemble de la France, pour les chambres de commerce, et à ce titre, je suis co-président du comité Eurochambre, donc l'ensemble des 27, dispositifs de chambres consulaires européens où on a une commission environnement et énergie. Et bien sûr, quand je discute avec mon homologue polonais, par exemple, on n'a pas du tout la même vision de ce qu'est l'énergie vertueuse. Hein. Pour eux, il n'y a pas de salut hors le charbon et le gaz de schiste. Bon, mais c'est logique, ça se comprend, puisque effectivement, au niveau économique, toute leur économie nationale est tournée vers ce produit, comme nous, on a été tourné et on est encore tourné avec l'énergie nucléaire pour l'électricité. Donc voilà, il faut vraiment arriver à compenser et comprendre les autres pour faire en sorte de faire avancer au niveau du monde entrepreneurial cette pensée et progresser lentement, faire en sorte qu'ils comprennent. Et faire, alors ça c'est pour les scientifiques, je suis ingénieur de formation, donc je comprends bien forcément la difficulté, mais il faut arriver à être très pédagogique, et c'est pas facile quand on voit ne serait-ce que ce résumé qui est fort, fort difficile à comprendre, en tout cas sur quelques minutes, et faire en sorte d'avoir des explications simples pour que les gens, que l'ensemble du monde de l'entreprise puisse l'appréhender et en tout cas le challenger. Voilà moi ce que je voulais dire assez rapidement, et je suis prêt à répondre à vos questions qui pourraient être posées.
Voilà, on peut consacrer un petit moment justement à des questions.
Oui, moi je voulais remercier Philippe Dutruc d'être venu témoigner pour les entreprises. Simplement, Monsieur le Président, est-ce que par rapport à cette analyse, qui est une analyse, comment dire, c'est une projection vers l'avenir, est-ce que la communauté, si elle existe, des responsables d'entreprise, chefs d'entreprise, quelle que soit la nature capitalistique de leur entreprise, a un niveau d'information et de formation qui est à la hauteur des enjeux? Si la réponse est non, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour justement élever ce niveau de conscience, mais aussi d'outils de management vers une nouvelle donne industrielle ou économique en tout cas?
Je pense qu'ils ont quand même un bon niveau de conscience, parce que d'abord ils sont confrontés à leur environnement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils essayent de voir qu'est-ce qui va se passer demain, parce qu'ils ont en charge leur entreprise et leurs salariés. Donc, ils doivent bien essayer d'appréhender l'avenir. Donc, ils sont attentifs à tout ce qui se passe au niveau scientifique, à tous les colloques, à tout ce qui peut être dit dans la presse, spécialisée ou pas d'ailleurs, pour se poser des questions. Après, ils ont quand même besoin d'un complément d'information. Et là, on essaye, au niveau des chambres, en tout cas, de le faire, de faire régulièrement des colloques, des réunions d'information, on fait venir tel ou tel conférencier qui leur parle et qui leur permet justement de se faire cette philosophie, de dire, bon, pour moi c'est important, il faut que j'y aille, c'est moins important, donc je peux laisser un peu filer, mais ils sont aussi citoyens, hein, donc ils sont aussi, c'est d'abord citoyens, donc ils font très attention à tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait, parce que ils veulent exister demain et ils veulent que leurs enfants puissent aussi vivre. Donc, je pense qu'il faut être... aller un peu plus loin dans l'information spécialisée à destination de telle ou telle filière, parce que, bien sûr, les filières peuvent avoir un poids différent. Quand on parle de carrière, quand on parle de raffinerie, quand on parle de la métallurgie, les problèmes inhérents ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il peut y avoir des informations plus filières. Mais aussi leur donner cette information de base qui leur permette de se forger un comportement.
Voilà, une autre question.
Alors la question était pour Georges Stupart, mais apparemment il est parti, donc je ne vais pas la poser. C'est plus une remarque sur les deux dernières interventions autour de la table, parce qu'il y a eu le voisin qui en a fait une aussi, et ça me fait constater qu'il y a encore peut-être une tendance à un climato-scepticisme, etc. Sur votre intervention, vous illustriez par exemple sur le diaporama par 5 photos sur énergie hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire, etc. Et je disais à mon voisin qu'il manque une énergie qui est rarement illustrée quand on parle d'énergie, c'est l'énergie musculaire. Et on tombe un peu dans le piège de quelles technologies vont nous permettre d'être à répondre aux besoins, etc., sans se demander comment on peut faire 500 mètres ou 1 km, peut-être avec une voiture économe plutôt qu'avec un 4x4, mais il y a encore plus simple que le 4x4, c'est le 2 ou 2-1, c'est avec les pieds, etc. C'est un peu pour illustrer, et pour votre intervention, monsieur, je suis quand même agréablement surpris et réconforté d'entendre quelqu'un du monde des entreprises qui dit... Il n'y a pas que des réponses technologiques, qui a été l'intervention principale précédente, mais il y a aussi des réponses comportementales. Et dans les entreprises, je suis effectivement réconforté d'entendre un représentant qui dit, par des évolutions de comportement, on peut se demander comment on peut consommer moins, etc.
Alors, bravo. Sur la mobilité, on peut faire le petit exercice. Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour venir ici? Non, on ne va pas le faire.
Sur ce point-là, sur le dernier point, c'est essentiel, le comportemental. On parle beaucoup de transition énergétique en ce moment. On peut faire les meilleurs efforts d'isolation, des maisons, des meilleurs efforts d'amélioration de la consommation énergétique. Si les personnes sont fenêtres ouvertes en permanence, ça ne changera rien. Il n'y aura aucune évolution. Donc il faut vraiment travailler sur le comportemental de façon à expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mieux économiser. C'est vrai déjà pour l'eau. On peut dire l'eau, il faut l'économiser, et il faut l'économiser, parce qu'on sait que c'est un bien précieux et qui coûte de plus en plus cher, donc il faut faire très attention. Si quand on est dans sa salle de bain, on laisse le robinet couler, on fait des dépenses qui sont certes, vraiment epsilon pour le budget du ménage, mais pour le budget, et en tout cas pour l'avenir de la collectivité, sont excessives, parce que si tout le monde fait la même chose, c'est dramatique. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler, bien sûr, toute la partie technologique, et c'est pour l'ingénieur que je suis qui dira le contraire, mais il faut aussi travailler avant tout sur le comportemental, de façon à expliquer aux gens comment ils peuvent le faire. Alors, c'est pas qu'ils ne le fassent pas, hein. Il y a énormément de gens qui peu à peu commencent à découvrir ces gestes, mais il faut encore appuyer sur ce créneau-là.
C'est un élément de la RSE, prendre en compte les coûts écologiques et sociaux.
Tout à fait.
De la démarche.
Dans la RSE, dans les entreprises, l'aspect principal, c'est effectivement qu'on travaille avec l'ensemble du monde de l'entreprise, donc avec les salariés, les collaborateurs, et donc que chacun prend conscience de qu'est-ce qu'il peut faire au sein de l'entreprise pour améliorer le système. Et s'il le fait dans l'entreprise, nous parions qu'il le fait aussi chez lui.
On va prendre une dernière intervention avant une petite pause.
Alors, Marie Legrand, j'interviens pour Poitou-Charente Nature et je siège également avec Philippe Dutruc au Césaire dans la même commission transport. Donc, j'ai une question transport. En Poitou-Charente, le transport des marchandises se fait essentiellement par la route. Il est un des principaux contributeurs aux gaz à effet de serre du Poitou-Charente et de la consommation énergétique. Il n'a fait que croître et embellir ces 20 dernières années, ce transport par marchandises. Donc c'est vrai qu'une des grandes questions, c'est comment faire pour transporter autrement, c'est-à-dire transférer le transport route par d'autres modes de transport, beaucoup moins consommateurs et producteurs de GES. Actuellement, se déroule une grande enquête publique qui concerne un projet ambitieux dit d'autoroute ferroviaire. Je ne sais pas si vous le suivez. À notre sens, pour nous, Poitou-Charentes Nature, le projet semblait intéressant, mais il est terriblement faible et terriblement réducteur par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'une grande autoroute ferroviaire en région Poitou-Charentes. Donc je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais voilà la position de Poitou-Charentes Nature.
Alors, je rejoins sur le débat global. Je pense effectivement que c'est un vrai atout d'avoir une autoroute ferroviaire qui permet de faire du report modal de la route vers le fer. Mais quand on prend le terme d'autoroute, en général, il y a des péages. Or, on s'aperçoit que cette autoroute ferroviaire, c'est, on va faire un résumé, Espagne, Europe du Nord. Certes, il passera par Niort ou par Poitiers plus tard, enfin par Angoulême plus tard, mais on n'entend pas parler de péage, on n'entend pas parler d'arrêt. Donc, effectivement, c'est un corridor. Et donc, je rejoins Mme Legrand sur ce sujet. Je pense qu'il aurait été plus haut ou plus intéressant de considérer que, d'autant plus facilement, puisque à Niort, il y aura une rupture de charge du fait du changement de traction. On passe de traction électrique à la traction diesel, parce que toute la voie n'est encore pas électrifiée, ça viendra. Mais je pense qu'il aurait été intéressant de faire un point d'arrêt avec possibilité de charger, décharger, de rajouter un wagon, d'enlever un wagon, peu importe. Ça, c'est que de la logistique. Ne serait-ce que pour profiter d'un autre élément important dans le transport, quels sont les ports, et au premier chef, notre port de La Rochelle, qui est un des rares ports en eau profonde du littoral. Donc tout ça, c'est parce que on a une logique un peu globale, et on oublie la province, je vais être gentil, quand on voit ça de Paris. Et donc, on est un peu, enfin, en tout cas, Chambre de commerce des Deux-Sèvres, mais je sais que le monde politique de Sèvrien est un peu sur la même lignée, c'est de dire être traversé par l'autoroute ferroviaire, c'est pas suffisant. En plus, ça peut amener des risques complémentaires, potentiellement. Mais ce n'est pas suffisant et en fait, l'avis sera plutôt modéré, sinon défavorable.
Philippe Dutruc, merci pour votre venue, votre intervention, votre témoignage. On reste évidemment très vigilant et intéressé par toutes les initiatives qui sont entreprises par le secteur économique. Je vais vous accorder généreusement 5 minutes de pause pour que vous puissiez en prendre 10, parce que je vous connais. Mais dans 10 minutes, c'est-à-dire à 10h59, nous reprenons nos travaux.